Du 29 juin au 21 juillet, RMC se dédouble avec la radio digitale RMC 100% route. Toutes les étapes en direct, analyse, décryptage avec la Dream Team RMC et vous au 3216, touche 9. Alors pour la grande boucle en direct et en intégralité, téléchargez l'appli RMC. RMC 100% route avec Lidl. RMC, bien plus qu'une radio. RMC.
L'avion va s'emballer et applaudir les joueurs. Oui, viva Volta!
On a fait Paris, Dubaï, Dubaï, Istanbul, Istanbul, Casablanca, Casablanca, Ouagadougou.
L'effectif n'est pas du tout le même, donc il faut passer à des choses peut-être un peu moins gling-gling, on va dire.
Rien n'est jamais tombé, justement, sur un plateau d'argent pour eux.
Jusqu'à minuit 30, l'After Foot, Intégral Euro.
Gilbert Bribois.
Bonjour à tous, l'After continue jusqu'à minuit et demi sur RMC et sur la chaîne YouTube de l'After After-Foot, bien sûr. L'After est là, premier podcast de France, espace de liberté des supporters. Au 32-16, on vous attend nombreux pour analyser les matchs de ce mardi soir. La libre antenne de l'After suivra jusqu'à 1h30 du matin. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Florent Gautreau également. Florent, bonsoir.
Salut à tous.
La Turquie se qualifie, l'Autriche 2-1. Les Pays-Bas se qualifient également. En battant la Roumanie 3-0, on va parler de ces matchs avec nos drôles de l'âme dans quelques minutes. Le 32-16 est ouvert. Il y aura également l'actu de l'équipe de France avec un excellent reportage de Fabrice Hawkins qui nous raconte comment Deschamps, en gros, a fait croire à tout le monde, même à ses joueurs, qu'il allait jouer en losange pour finalement changer d'avis hier midi avant le match. Je vous raconterai ça tout à l'heure. L'actu des droits télé également, puisqu'on est à 46 jours de la reprise de la Ligue 1, on ne voit toujours rien venir. Mais apparemment, ça bouge un peu quand même. Ça frémit.
Il ne faudrait plus que ça ne bouge pas un peu quand même.
Bah ouais, mais bon, tant qu'il n'y a pas d'officialisation ni rien, on est bien obligé de. Comment dirais-je
Mais dis-le, je sais pas, mais dis-le. Ah, pardon. T'es un peu souffrant, c'est vrai, depuis hier. Je crois que t'as pris froid à Bordeaux, là.
Un peu.
Ça, c'était une grosse cote. C'était la plus grosse cote de l'Euro.
Entre l'after dans le courant d'air et la côte de bœuf, entre les deux, t'as chopé. Oh là, on l'a perdu, Flo.
On a perdu Gilbert. Alors, c'était la plus grosse cote de l'Euro. C'était à 47 contre 1. C'était 1er juillet à Bordeaux. Donnez-nous une température.
10 degrés.
Il faisait, ouais, le soir, on a frôlé les 10.
Gilbert revient peut-être au bon moment. Sinon, on va être obligé de faire sans lui. On fera les 3 points à 2.
Est-ce que tu veux qu'on lance les 3 points, Gilbert ?
Oui, on va lancer les 3 points. Allez.
L'important, c'est l'essentiel.
Hein. Le plus important, c'est les 3 points.
Soit l'essentiel, c'est le plus important.
Bon, Flo, quels sont tes 3 points ?
Daniel, vas-y, tu peux y aller.
Même mourant. Molière.
Ah non, mais j'ai une canne tout là. Terrible.
Écoute, l'étonnante Turquie, parce que oui, on pourra dire que mais c'est tellement quelque chose qu'on voit souvent dans le foot. L'équipe qui méritait le plus dans le jeu était peut-être l'Autriche. Mais ça ne veut pas dire que la Turquie a démérité, parce qu'elle s'est battue, elle a profité des opportunités qui ont été deux coups de pied arrêtés. Et puis après, elle s'est battue. Et puis en plus, elle aura en souvenir éternel cet arrêt final du gardien assez incroyable. Le deuxième point, c'est les Pays-Bas. Est-ce que c'est une montée en puissance, une progression? Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, ça ressemble déjà plus à ce que j'attendais des Pays-Bas et que j'avais pas trop vu depuis le début de la compète. Et le troisième, eh ben, c'est le petit point droit télé où on va expliquer un peu ce qui se passe en ce moment, et j'ai le sentiment que la chaîne tient la corde, la chaîne LFP.
Florent. Eh ben écoute, en point numéro 1, oui, l'exploit. Moi, j'ai l'exploit turc parce que je m'y attendais honnêtement pas du tout par rapport à ce qu'on avait vu des deux équipes depuis le début du tournoi. Donc, c'est une surprise quand même. Et effectivement, en point 2, je vais mettre deux points individuels. La parade du gardien, parce que, voilà, on rappelle Gordon Banks, hein, il a arrêté un but qui avait été marqué par Pelé. Et ben là, c'était le cas aussi. Il a fait un arrêt exceptionnel, Gudok. Et je mets en point, dans le même point individuel, Arda Güler, parce qu'on a beaucoup parlé de ce joueur. Mais on l'avait pas tant vu que ça. Et là, sur les deux coups de pied arrêtés, notamment, mais pas que, avec une forme de liberté, de liberté de stratège qui me plaît bien, c'est le joueur qui. Voilà, que je retiens de ce match aussi. Puis le troisième point, les Pays-Bas, mais avec une Roumanie qui m'a déçu, en fait. Plus je l'ai vu jouer dans le tournoi, à part le premier match, plus elle m'a déçu. Donc je m'attendais à un truc un peu plus, on va dire une opposition un peu plus franche pour les Pays-Bas, pour les challenger. Donc je peux pas te dire vraiment si je suis comme toi pour dire que c'est les Pays-Bas qui me plaisent plus, ou si vraiment ils ont eu une opposition relativement faible. Je remarque que le sélectionneur, on en parlera.
T'as des équipes qui ont eu des oppositions faibles et qui ont pas fait matchs. Je trouve que les Pays-Bas, effectivement, ça n'était que la Roumanie.
Ouais.
Mais leur façon d'être sur le terrain, c'était quand même mieux que ce qu'on a vu. Alors, est-ce qu'il joue à libérer parce que justement, c'est une équipe qui, quand elle sait qu'elle a de l'adversité, flippe un peu, ne sait pas tellement comment prendre le match. Là, ils l'ont pris d'entrée comme un match qu'ils devaient dominer, qu'ils devaient gagner, et ils ont écrasé l'adversaire.
En fait, c'est le point 3, ça aurait pu être d'ailleurs, Gilbert, les huitièmes de finale, finalement, à part Autriche-Turquie, qui finalement ont été assez logiques. Il n'y a pas eu les, il y a pas eu de match de fou et pas et d'énormes surprises. C'est-à-dire que les valeurs établies, même dans le Suisse-Italie, qui finalement sont des valeurs établies là sur cet euro qui était clairement en faveur de la Suisse, voilà, l'Angleterre aurait pu sortir mais n'est pas sortie. Et finalement, c'est pour moi la plus grosse surprise, c'est sans doute l'Autriche. Donc globalement, des valeurs établies qui passent. Et je dirais qu'on renvoie au quart de finale le moment un peu fort, ce qui est logique. Va dire maintenant qu'il y a 24 équipes, le moment un peu décisif où vraiment tu auras du gros parterre, forcément, de par les oppositions, quoi. Mais là, finalement, tout le monde s'en sort à peu près. Tu vois, on disait, les Pays-Bas, ils sont peut-être pas super au top. Est-ce qu'ils peuvent éventuellement se faire sortir par la Roumanie? Non, pas du tout. L'Angleterre, vraiment pas bonne, mais elle se fait pas sortir non plus. Et donc, au final, il y a dans ce Autriche-Turquie le match des outsiders que les Turcs ont créé une belle surprise.
Donc toutes les affiches des quarts. D'ailleurs, je vous rappelle le tableau. Le vainqueur de Suisse-Angleterre jouera le vainqueur de Turquie-Pays-Bas. Le vainqueur d'Allemagne-Espagne jouera le vainqueur de France-Portugal. Voilà. Et on a Paulo Breitner qui est avec nous. Paulo, bonsoir.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Et également avec nous Efe qui fait l'amitié d'être à nouveau avec nous, lui qui suit l'équipe de Turquie et qui que vous retrouvez sur le compte Football... ActuFoot.
ActuFoot Turquie, ouais, c'est ça Turquie. Exactement.
Excuse-moi, je me suis emballé les pinceaux. ActuFoot Turquie.
Bonsoir à tous, non, il n'y a pas de souci.
Salut, Efe. Bon, alors, Efe, on va démarrer avec toi parce qu'il y a quand même un truc avec la Turquie assez étonnant. C'est que toi-même, depuis le début de l'Euro, tu n'es pas d'une confiance absolue. Chaque fois, on pointait du doigt les limites de l'équipe. On disait, qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'ailleurs sur Demiral ? En disant, finalement, est-ce qu'il est au niveau, etc.
Arabie Saoudite, lui aussi.
Et moralité.
Oui, ouais, clairement.
Moralité, ce soir, rien à dire, il marque et tout. Et la Turquie est en quart de finale. En toute honnêteté, est-ce que tu es. Au baromètre de la surprise, t'es à combien de pourcents, là ?
Sincèrement, je m'attendais à une petite surprise de la Turquie, mais je m'attendais pas à un si gros match, surtout de la part de Demiral, qui justement pour le coup était pas vraiment attendu. Là, sur un pourcentage, je dirais que j'étais surpris à quoi ? Ouais, 70%, facile.
Bon, on est d'accord. C'est vrai qu'il
Oui, clairement, c'était pas du tout attendu. Hein. Sincèrement, j'avais même call. J'avais dit que pour moi l'Autriche était favorite de très loin. Bah, et au final, on n'a pas eu le droit à une très grande Autriche, je trouve.
C'est ce qu'on a vu. Hein.
Non, ce qui est intéressant.
C'est ce qu'on a vu, une équipe qui dominait, terrain, qui a gâché quelques occasions, mais qui a fait face à un bloc hyper bien organisé. Quoi.
Un bloc organisé, puis je trouve que mentalement, les Turcs sont quand même bien entrés. Sur la première occasion du match, c'est assez marrant. Ouais. T'as une occasion tout de suite pour Sabitzer, là, pour les Autrichiens, enfin une sorte de demi-occasion. Et dans la relance. Les Turcs quand même dans l'engagement, j'ai senti, c'est derrière là-dessus qui est le corner, mais qu'ils étaient en tout cas dans leur match en termes d'intensité. Et derrière, sur les coups de pied arrêtés quand même, et c'est pour ça que je voulais souligner Arda Güler, ils ont quand même été chirurgicaux, c'est-à-dire que sur un domaine où moi j'attendais pas autant de qualité. Alors Arda Güler sur le tireur, oui, mais dans la surface, je m'attendais à plus de qualité côté autrichien. Là, ils les ont punis et derrière, après ils ont défendu super bien, quoi.
Oui, après les Autrichiens n'ont pas mis à profit toutes leurs occasions, ils avaient énormément de situations, ils se sont créés des occasions, je pense qu'Arnautovic en a une énorme sur laquelle il doit faire beaucoup mieux, je veux dire, entre le fait de démarrer à la première minute en profitant du fait que l'équipe, on va dire comme ça très vite, n'est pas bien réveillée, pas complètement rentrée dans le match, tu mets un but dans la foulée, t'as celui qui est censé un peu porter l'équipe, qui rate une occasion en 1-1, Ça, à l'arrivée, ça finit par coûter cher. Tu peux continuer à dire les Autrichiens étaient meilleurs, les Autrichiens ont eu des occasions, ont eu ceci, cela. Sur ce genre de match-là, si tu as une équipe comme la Turquie où il y a quand même de vrais bons joueurs de ballon, ils sont capables de ressortir, de jouer en contre. Bon, ils ne se sont pas créés une tonne d'occasions. Hein. Mais bon, deux corners, deux buts, efficacité maximale. C'est pas la première fois qu'on voit ça dans le foot. Hein. On ne tombe pas de l'armoire quand on voit ce genre de match-là. Ça arrive. Et le foot propose ce genre de spectacle assez régulièrement, surtout dans les compétitions internationales.
Paulo, l'Autriche en tout cas nous aura offert quelques-uns des plus beaux matchs de l'Euro. Ce soir, c'en était un. Il y a eu le Pays-Bas-Autriche aussi, qui était un beau match. Est-ce que tu considères ce soir que c'est une grosse contre-performance ou pas ?
C'est un scénario avant d'être une contre-performance. Je suis d'accord avec Daniel. T'as pas le... Quand tu commences à être mené au score et que t'es pas réveillé, quand tu as sur le terrain des leaders qui n'ont pas été là, parce qu'il faudra quand même parler de Zabitzer, Arnautovic et Baumgartner ce soir, qui sont des leaders de l'équipe et qui n'ont pas été à 100%, que tu es mené 2-0 parce que la Turquie a pas fait grand-chose à part piquer, mais ça fait partie du football. Et d'ailleurs, l'un des mots du football actuel, c'est ces blocs qui sont à 30 mètres de leur but pendant et qui défendent pendant 90 minutes. Tant qu'on n'aura pas trouvé une vraie solution, ça fera partie, mais encore une fois, comme l'a dit Daniel, c'est ça, pas c'est, la première fois que ça arrive.
Foot, hein, on voit ça tout le temps.
Oui, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la dernière fois. Ce qui est dommage ce soir, évidemment, c'est que c'est pas la meilleure équipe qui se qualifie. Parce que si le football ressemble à ce que propose la Turquie, ben on peut aller jouer au bowling, quoi. Donc c'est toujours un peu compliqué. Maintenant, ce scénario existe, et là je suis d'accord avec ce que vous avez dit, parce que l'Autriche n'a pas fait ce qu'il fallait. Ils n'ont pas été bons, notamment sur les coups de pied arrêtés. Zabitzer a raté un nombre incalculable de corners. Ça manquait de variété dans l'animation offensive. J'ai apprécié le fait que Rangnick prenne tout de suite ses responsabilités en passant en 4-4-2 en début de seconde mi-temps et en sortant Romano Schmid, qui n'était pas bon ce soir non plus, qui avait pris un jaune, etc. Pour moi, c'est un match, qui fait mal. Mais l'Autriche, d'un autre côté, s'est parfois trouvée dans la situation de la Turquie et a gagné des matchs comme ça aussi. Donc il ne faut pas accuser la Turquie. Ça fait partie, et ça fait partie aussi d'un apprentissage où cette équipe de
l'Autriche... Mais je pense qu'elle avait un gros coup à jouer dans cet Euro. Hein.
Oui, non mais... Ouais,
en retrouvant
ouais,
les Pays-Bas en quart, c'était un match ouvert.
Cette partie de tableau, de toute façon,
Il y avait un vrai truc pour eux. Hein. Moi, je trouve que je maintiens, j'aimais cette équipe, je continue à trouver qu'elle est bien. Ce soir, effectivement, comme tu dis, il y a peut-être
des
qui n'ont pas été à la hauteur, mais les occasions sont là, le jeu, il est là, volonté de jouer, elle est là.
Mais Arnautovic égalise en début de seconde mi-temps, le match...
Je pense que c'est pas la même chose. Son occasion, elle est énorme, Arnautovic.
Peut-être, mais est-ce que Polo, comme tu l'as dit, c'est quand même... Le fort des grandes équipes en devenir, on va dire. Enfin, des sélections fortes. Mmh. Je prends l'exemple de ce que tu décris et que moi je vois aller au bout. Enfin, au bout, au moins en finale, c'est la Suisse. Tu vois, la Suisse, l'expérience acquise dans les tournois depuis quelques années, lui a servi justement. Et maintenant, cette Suisse-là, elle est capable d'aller déjouer équipes.
Flo, on est tout à fait d'accord et j'ai une discussion qui date de 2015 avec des journalistes suisses. Parce que moi, cette équipe d'Autrichienne, je la vois progresser saison après saison et c'est pas nouveau. Si elle fait 3 euros à la suite, il y a des raisons. Elle n'arrive pas à se qualifier pour une Coupe du Monde. Et je me rappelle, en 2015, je fais des débats en Suisse parce qu'il y a un match amical entre l'Autriche et la Suisse. Et on me dit, mais tu penses quoi de l'Autriche? Et je dis, mais cette équipe autrichienne, elle est au minimum aussi bonne sur le papier que l'équipe suisse. Sauf que l'expérience, le vécu commun de la Suisse, le fait d'avoir rencontré des grosses nations, d'avoir perdu parfois raclées, et parfois d'aller chercher les points, etc. L'Autriche ne l'a pas aujourd'hui. Et là, on la met dans une position de favorite face à la Turquie.
C'est comme jouer contre un bloc bas comme ça.
Bloc bas et favori.
Oui, c'est pas un truc qui est habituel pour.
Non, mais la comparaison avec la Suisse est intéressante parce qu'effectivement, la Suisse, quand elle sort la France au tir au but, cette expérience-là, elle l'a quand elle rencontre sur son dernier match, quand elle rencontre l'Italie. Et elle fait preuve d'une maîtrise qu'elle n'avait pas sans doute il y a 4, 5, 6 ans. Et l'Autriche aura peut-être cette maîtrise dans d'autres tournois après avoir justement vécu ce calvaire.
Elle a des postes compliqués. Le gardien, il n'y en a toujours pas. Arnautovic, il n'y a pas vraiment de remplaçant qui arrive. On va voir ce qu'il va faire Galadzic. Il y a prolifération de milieux de terrain, de défenseurs centraux, mais les latéraux, c'est pas terrible. Hein. Mvéné n'est pas bon une fois de plus. D'ailleurs, Mvéné, il est même meilleur à droite qu'à gauche, etc. Donc, non, il y a des joueurs polyvalents qui permettent, encore une fois, il faut relativiser. Je veux dire, il y a 10-15 ans, on se posait la question de l'Autriche, on faisait les fonds de tiroir, on savait même pas comment trouver 23 joueurs, quoi. Là, on se dit, ah ben mince, c'est presque une contre-performance.
On se souvient de l'époque où en Autriche, il y avait un attaquant très grand et Raymond Domenech se demandait s'il fallait une échelle pour le prendre sur corner.
Mais oui, mais il y avait Yanker, il y avait Polster, il y avait des choses comme ça.
C'est un escabeau qu'il avait dit.
Mais il y avait Krankel, il y avait tout ça, et ça manque un petit peu. Mais moi, je suis pas déçu par le parcours. On m'aurait dit là, avant la rencontre, avant le tournoi, que l'Autriche finirait premier dans un groupe où il y a la France, la Pologne et les Pays-Bas. J'aurais rigolé, quoi. Donc voilà, c'est de l'apprentissage. T'avais une occasion énorme d'aller en quart de finale d'un Euro. C'est raté, c'est pas grave. Prochain objectif, la Coupe du Monde.
Un peu à la Turquie avec effet parce que parmi les grands débats dans l'équipe turque, il y avait le cas de Guler. La gestion par le coach Montella d'Arda Guler. Là, ce soir, il est titulaire. Et il y a eu le cas d'Emiral, on en a parlé tout à l'heure. Il y avait pas mal de questions. On peut quand même considérer qu'il y a une montée en puissance malgré tout, hein, malgré les doutes et tout. Sans doute qu'ils seront à nouveau pas favoris contre les Pays-Bas. Il se passe quand même un truc.
Alors, pour moi déjà, Arda Güler, il a eu un poste assez spécial. Encore une fois, j'ai l'impression que Montella, à chaque fois, à chaque match, change son usage d'Arda Güler. Là, il était mi-faux 9, mi-10. J'ai un peu du mal à comprendre exactement ce qu'il voulait faire avec lui. Mais pour autant, oui, sur coup de pied arrêté, il était bon, on l'a vu. Mais j'ai pas trouvé Arda Güler exceptionnel, hein, franchement, sur le match. Pour moi,
ouais, moi je suis d'accord avec
c'est
toi,
pas lui qui se démarque le plus.
Ouais, mais moi, je trouve que la liberté qu'il lui laisse a perturbé les Autrichiens. C'est-à-dire qu'à partir du moment, enfin, tu vois,
oui, bien sûr.
Pardon ?
Il a dit oui, bien sûr.
Non, vas-y, je t'ai coupé.
Non, voilà, c'est en ce sens que moi j'ai trouvé intéressant qu'il puisse se permettre quelque part le luxe d'avoir un bloc qui a aussi bien défendu avec un joueur qui lui a fait quand même la dit sur coup de pied arrêté et qui est aussi libre. J'ai trouvé ça assez étonnant de lui donner finalement autant de liberté avec ce statut, quoi.
Oui, bien sûr, mais après, en termes d'occasion créée, c'est pas non plus en dehors des coups de pied arrêtés. Dans le jeu, c'est pas exceptionnel. Franchement, moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup plus d'actions qui sont parties de Ferdi Kadjoulo, du latéral gauche, que d'Arda Güler. Et même pareil, Kenan Yildiz, il a été assez décevant. Au contraire, moi, je soulignerai plus le match d'Orkun qui a remplacé à merveille, je trouve, Hakan en tant que 10, en tant que milieu avancé. Et pour moi, ouais, les projecteurs ils sont projetés à fond sur ces deux jeunes joueurs, mais la Turquie, pour moi, elle a pas du tout démérité. Il y avait un bon jeu collectif. Les lacunes défensives ont été pour la plupart corrigées. Bah, on l'a vu, hein. La charnière d'Emiral Bardakti, là, c'était du solide ce soir. Même au niveau des latérales, c'était pas mal. Donc, je trouve que non, franchement, la Turquie, elle a pas démérité, même si, bon, c'est vrai qu'en termes d'occasions créées, de tirs, etc., on est en retard. Il y avait l'envie, il y avait la volonté. J'ai pas eu cette sensation-là chez les Autrichiens. Donc, pour moi, ça reste un match, qui était peut-être pas évident à remporter, mais au final, qu'il l'a été. Et Arda Güler, en l'occurrence, il a été plutôt bien utilisé quand même, je trouve. Même si, pour moi, il devrait évoluer vraiment en tant que 10 pur et pas sur l'aile droite, un peu comme on peut le voir dans un poste hybride avec Barış Alper.
Bon, on verra ce qui se passe pour les quarts de finale. Montella, du coup, là.
Maintenant, ça va être mieux.
Oui, parce qu'il était quand même pas mal contesté.
ouais, à fond.
Et là, on peut considérer, enfin, franchement, on peut considérer quarts de finale que la Turquie a largement réussi son euro avec le match de ce soir.
Alors, oui, enfin, clairement, enfin, déjà, on ne s'entendait pas à grand chose avant le début de l'euro. De toute façon, je n'étais pas le plus optimiste dès le départ.
Et aucun supporter turc qu'on a eu au 32-16 ou qu'on a invité comme toi qui est journaliste, personne n'était optimiste pour la Turquie. Hein. C'est pour ça que c'est surprenant.
Bah, j'ai envie de dire que 8 ans, enfin, moi, ça fait presque 8 ans, ouais, 2016, depuis 8 ans, bah, la Turquie, elle a enfin confirmé son statut d'équipe surprise. Contre l'Autriche en l'occurrence. Donc ça a pris du temps, mais je pense que la génération qui arrive a confirmé les espoirs qui étaient placés en elle. Et maintenant, on se dit que les Pays-Bas, c'est pas encore une fois le pire match qu'on pourrait avoir. Donc on espère aller plus loin. Et comme l'avait dit Walid, je crois, la dernière fois, la Turquie en compétition, c'est soit demi, soit catastrophe dès le début. Donc,
oui, sauf moi, que ça n'arrive pas toujours. Justement, pour les plus belles pages de l'histoire du football turc, on a évidemment 2002 en 1.
Ouais.
Ah bah oui.
2008 en 2.
Ouais. 2008,
ouais. Et puis en 2004, je crois que ouais, ça a fait un quart aussi, en Europa, à l'Euro.
Mm-hmm. Et donc là, c'est écriture en cours.
Écriture en cours, là, la suite qui arrive.
Enfin, et 2002,
j'ai une question un peu polémique.
Troisième place à la Coupe du Monde, quand même.
Ah, quand même, oui, bien sûr.
À Kamchoukour,
bien sûr.
Et
j'ai une question un peu polémique.
Ouais.
Ouais, Polo.
Kiber, il y a quand même 85 millions de Turcs en Turquie, justement. Comment ça se fait que l'équipe nationale n'est pas plus forte, tout simplement, et qu'on reste dans une logique d'équipe surprise? Moi, j'ai évidemment beaucoup de Turcs ou de binationaux qui jouent en Bundesliga.
Ah ouais, parce que les meilleurs, ils jouent chez toi. Avec ça.
Non. Enfin, Çalhanoğlu, il est pas en équipe nationale.
Là, il est
ce soir. Mais, ouais. mais le comment se fait-il que ce pays, en plus avec la capitale stambouliote, il y a des clubs qui sont quand même assez monstrueux
avec des clubs qui drainent énormément de supporters, ouais, c'est vrai.
Exactement. Comment se fait-il qu'avec 85 millions de une population de 85 millions, on n'arrive pas à avoir une équipe turque qui soit considérée à chaque Euro ou à chaque Coupe du Monde comme un potentiel favori?
En fait, je suis d'accord avec toi, le potentiel démographique, il n'est pas du tout exploité. Mais il y a un problème déjà au niveau de la fédération, au niveau des infrastructures, au niveau des clubs. En fait, le football turc a toujours été très court-termiste et en fait, n'arrive pas à se projeter sur très longtemps. À chaque fois, ça se voit de toute façon en Super League. Les gros transferts, c'est jamais des transferts qui sont destinés à.
Non, mais le championnat est en perte de vitesse complète. Il ne faut plus rien en Coupe d'Europe, etc. Les clubs turcs, même s'ils ont une belle histoire.
Voilà. Donc, ça tient à l'organisation, à la structure. C'est peut-être pour ça aussi que Altintop est en train de bosser là-dessus,
les jeunes sont pas formés. Hamid Altintop, il est assez critiqué en Turquie justement. Enfin, en fait, son travail, il est un petit peu ambivalent. Il est bien vu par certains parce qu'il permet justement, vu qu'il est binational aussi comme Çalhanoğlu, il est allemand et turc. En fait, il a des contacts privilégiés avec les Turcs qui vivent en Allemagne pour leur permettre de choisir la sélection turque. Mais en dehors de ça, à l'échelle locale, vraiment, il n'y a pas beaucoup de travail qui est fait au niveau justement des infrastructures, des centres de formation. Et donc,
il a pas envie de mettre tout ça en place justement.
J'ai pas l'impression, franchement, en dehors d'Arda Güler, il n'y a pas, en dehors d'Arda Güler et d'Arda Turan, là, récemment, sur les 15 dernières années, il n'y a pas un bon joueur turc qui est sorti d'un centre de formation turc. Kenan Yıldız, c'est le Bayern. Hakan, c'est Leverkusen. Il y a plein de joueurs comme ça qui sortent des centres de formation européens. Donc, c'est pas du tout.
L'équipe de Turquie, paradoxalement, même ce soir, peut remercier la formation allemande, quoi.
Évidemment.
Il y a même eu beaucoup de polémiques, d'ailleurs, à ce niveau-là.
Ah ouais, Polo, vas-y, raconte.
Parce que, par exemple, moi, je me rappelle très bien la Coupe du Monde 2014, Zamer était là-bas et il virait tous les agents qui cherchaient à ce que les joueurs deviennent turcs et pas allemands. Et la phase, ils arrivaient dans les hôtels de la sélection allemande comme si c'était chez eux, quoi. Donc, en fait, si tu veux faire un travail là-dessus, il faut évidemment courtiser, mais il faut aussi être respectueux du pays où tu es ou du pays où tu veux être, quoi. Et donc, c'est un peu compliqué tout ça, et t'as toujours l'impression, moi qui m'intéresse à la Turquie, ça fait quand j'étais étudiant, donc tu vois, ça commence à faire un bout de temps, que à ce niveau-là, et tu as employé le mot qui est très juste de court-termisme, qu'il n'y a pas, il faut absolument un résultat tout de suite, etc. Or, quand tu as 85 millions de population, quand t'as des clubs stambouliotes qui ont fait, c'est même pas des exploits, qui ont fait des excellents résultats, parfois quand on est des grands clubs européens, tu sens que l'équipe nationale devrait être la figure de proue de ce football-là et qui a un énorme potentiel, il est complètement sous-évalué. Et ça, évidemment, c'est le travail en interne, c'est le travail en Turquie, c'est le travail des spécialistes. Je parle même pas parfois de la corruption ou de ce qu'on entend des joueurs qui sont virés ou moi des anciens Allemands qui sont allés jouer dans le championnat turc, qui sont partis très rapidement parce qu'ils n'ont pas été payés et tout ça.
Oui, donc, c'est sûr que les paiements avec les billets dans les salles de sport, ça existe, pas les billets d'ailleurs.
Ou carrément pas les billets. Mmh. Et tout ça, c'est compliqué au bout d'un moment. C'est-à-dire que ça se ressent. Et moi, la Turquie, j'aimerais vraiment la voir systématiquement à chaque grosse compétition comme au minimum un outsider.
Mmh. Effet, merci beaucoup. Rappelle l'adresse si on veut te suivre.
@actufootturquie sur X. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour. Je partage toute l'actualité liée au championnat et à la sélection.
Et il est parfait. Il est toujours à l'heure car il n'y a pas d'effet retard. Exactement. Merci Effé, bonne soirée.
Bonne soirée à tous.
Dans un instant, Florent avec nous au 32-16 pour conclure sur ce match. Encore un mot.
Non, je suis là.
De l'Autriche. Non, un autre Florent.
Ok.
Sans doute aussi pertinent que toi, bien sûr.
Bien sûr.
Et ensuite, les Pays-Bas avec Johan Crochet. À tout de suite.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC, jusqu'à minuit 30, l'After Foot, intégral Euro.
Gilbert Bribois.
Il est 23h21, Florent Gautreau est là, Daniel Riolo est là, c'est l'after jusqu'à minuit et demi comme tous les soirs. Tout à l'heure l'équipe de France au programme, on parlera droit télé également. Pour l'instant, Polo Bracter toujours avec nous pour analyser l'élimination de l'Autriche.
Excuse-moi Gilbert, j'ai fait une boulette tout à l'heure évidemment, je parlais pas de l'équipe nationale, c'était U21 à l'époque où Mathias Zamer était la
l'équipe nationale, c'était pas possible
de le récupérer. Évidemment, c'était entre 2006 et 2012 où ils viraient Manu Militari, les représentants de la fédération turque et des agents qui voulaient et qui se baladaient dans les hôtels lors des championnats d'Europe, par exemple, pour expliquer aux Turcs qu'on fait pas comme ça pour approcher certains joueurs.
Il y avait beaucoup de commentaires et c'est toujours des débats et ça existait en Allemagne bien sûr sur le rapport Allemagne-Turquie. Je vois passer beaucoup de messages. Ouais, il faut dire merci à un tel, il faut dire merci à un tel. Enfin, excusez-moi, je suis enfant d'immigré, très fier de mes racines, de mes origines, de l'histoire de mes deux pays. Mais enfin, si je dois dire merci en premier à quelqu'un, j'ai grandi ici, j'ai profité de tout ce qu'il y avait en France. Mes parents avaient rien quand ils sont arrivés. Je dis merci à la France, quoi. Dire, si j'avais joué en équipe nationale de quelque chose et que j'avais porté le maillot bleu. Ah, j'aurais pas forcément demandé à ce qu'on dise merci à l'Italie, quoi. Tu vois, bon, peut-être que ma mère, en faisant des pâtes, elle m'aurait rendu un peu plus fort. J'en sais rien. Peut-être que ça joue. Mais sinon, voilà, à un moment, les... Non, mais les merci qu'on lit, il faut dire merci. L'Allemagne doit dire merci aux Turcs quand Ozil joue.
Là, c'est plutôt la Turquie qui doit dire merci à l'Allemagne.
Mais non, mais enfin, je veux dire,
si les mecs sont formés, on a fait la liste de tous les mecs formés.
Si les mecs sont formés en Allemagne, qui grandissent avec cette éducation, cette culture, la qualité allemande, les structures, les machins. Tiens, au bout d'un moment, faut arrêter ces guéguerres stupides. Il y a des choses qui sont objectives, quoi. Voilà, t'arrives, t'as un pays dans lequel tu es, qui te donne. Bon, qui t'accueille, tu dis merci. Genre, ça veut dire quoi ça, genre, il faut dire merci à ceci ou à cela.
Ben, par exemple, Mevlut Erding peut dire merci à Sochaux. Il a été formé.
Non, mais c'est un excellent débat parce qu'en fait, ce débat ne ressort que lorsque on gagne avec des binationaux. Qu'est-ce qui se passe en 2018 et 2022 en Allemagne? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un faux débat sur l'identité. Pour moi, c'est des faux débats, de toute façon. Mais la question, elle est, c'est-à-dire que quand l'Allemagne a gagné, je me suis opposé à ça en Allemagne. J'ai même fait un débat avec Cohn-Bendit là-dessus, évidemment. Parce que
t'as débattu avec Cohn-Bendit.
Ouais, c'était débile parce qu'il disait, ouais, regarde, l'Allemagne gagne un gaz grâce à Mesut Özil, ça. Mais les Allemands, ils avaient gagné avant.
Bah, oui.
Et quand ils perdent, et on dit pas c'est à cause de Mesut Özil.
Puis il y a eu un débat, il y a eu un débat ou pas grâce, je veux dire oui, tant mieux, Mesut Özil c'était un super joueur, on le kiffait pas parce qu'il était d'origine turque. On le kiffait parce que c'était un super joueur. C'est tampon identitaire qu'il faut mettre, c'est insupportable au bout d'un moment. Si après je vais bouffer chez lui qui me fait ou des trucs ou que son apport culturel machin, tant mieux, c'est génial, magnifique, on aime toutes les cultures, mais il y a pas de c'est parce que il est comme ça que non, ça c'est idiot de dire ça.
Tiens, Hüseyin, notre fidèle auditeur,
ces choses-là,
qui vit en France d'ailleurs, nous dit effectivement en Turquie personne n'attendait grand chose de cette équipe, sans doute le groupe de joueurs le plus faible sur le papier de la Turquie des dernières décennies, dit-il. Bon, attention, en quart il y aura deux milieux défensifs qui seront suspendus, donc c'est vrai. Alors Florent est là au 32-16. Salut Florent.
Messieurs, bonsoir.
Salut Florent. Bon, toi t'es neutre hein, dans cette affaire.
Ouais, complètement. Moi je suis supporter de l'équipe de France. Mm-hmm. Alors je sais pas si je vais avoir la pertinence du Flo qui est déjà présent sur le plateau, mais je vais essayer. Tout simplement, déjà première chose, si ce match avait eu lieu hier soir, enchaîner ça après la bouillie de l'équipe de France, putain, bonjour le choc thermique. C'est pas grave pour la cagnotte, Gilbert. Ouais. Mais en fait,
j'ai. Non, c'est vrai que c'était un beau match, je veux dire.
C'était vivant, c'était bien.
Ouais,
bien sûr. Ben, moi, après, chacun son avis sur la question et chacun se base avec ses critères, ses paramètres, comment il aime le football. Mais moi, j'ai vu le meilleur match de l'Euro ce soir.
Ah non, là,
exagéré quand même.
Là, t'exagères quand même.
Je parle pas de niveau technique, Daniel. Je parle pas de niveau technique.
Tu parles de quoi?
Suspense.
D'un peu tout, de l'intensité, de la volonté des deux équipes de jouer avec leurs armes, mais de jouer. L'intensité, le scénario, l'engagement, dans les duels, ça galait. Enfin, moi, j'ai vu un match, un vrai match de coupe, quoi. C'est ce qui m'a plu dans l'intensité, quoi, vraiment.
Non, mais ce qui a bien fonctionné, Florent, c'est que on avait une opposition finalement assez plus équilibrée que celle à laquelle on pouvait s'attendre, parce qu'on voyait les Turcs un peu plus faibles que ça. Et dans les matchs qu'on a vus, on a vu soit des équipes avoir peur, on va dire, comme la Belgique hier, qui finalement n'a pas joué son match face aux Bleus, et ça a donné une bouillie parce que les Bleus, comme offensivement ils n'y arrivent pas, c'était pas très beau. Mais là, on avait effectivement deux équipes qui pensaient pouvoir passer et qui étaient d'un niveau non pas équivalent mais qui se rapprochaient. Donc c'est vrai que là il y avait de l'homogénéité et donc il y avait effectivement un vrai, c'est vrai, t'as raison quand même, un vrai bon huitième de finale. Tu vois, le Pays-Bas, Roumanie a été plus déséquilibré, même si les Pays-Bas ont été bons. Soit ça a été déséquilibré comme l'Espagne-Géorgie, soit ça a été un peu décevant parce que les équipes n'ont pas vraiment joué, comme la Belgique hier et la France pas bonne. Alors que là, les deux équipes ont joué et effectivement, elles avaient la chance de passer.
Sur le papier, on est d'accord que c'est peut-être le huitième le moins sexy, on va dire. Et pourtant, ce genre de match-là, moi, je l'attends plus d'un France-Belgique.
Oui, mais parce que je te dis, tu as de l'homogénéité, tu as des équipes qui sont proches l'une de l'autre, et donc tu as un effet caméléon au foot. C'est-à-dire que quand tu te rapproches de ton adversaire, tu peux avoir une opposition qui est plus sympa qu'avec deux équipes déséquilibrées.
En fait, si tu me permets, tu dois pas vraiment réagir comme ça, parce que l'histoire du foot a toujours proposé ce genre de rendez-vous manqué où tu attends. Par exemple, regarde. Je ne peux pas croire que ça se passera mal. Mais le Espagne-Allemagne, on s'attend tous à un match extraordinaire. Je suis convaincu à 100% que ça va l'être. J'espère que ça va l'être. Mais c'est pas la première fois qu'on annonce des grosses affiches et que le fait de se redouter, le fait de d'avoir peur l'un de l'autre, de se dire si je m'ouvre un peu, l'autre il va me trouer, ça peut donner des matchs fermés au final. Alors c'est pas du tout dans la nature ni des Espagnols ni des Allemands, surtout en ce moment. Ça a pu l'être dans le passé, mais pas en ce moment. Donc on s'attend tous à un gros match. Et là, Autriche-Turquie, tu sais, des matchs entre guillemets de second couteau en compétition qui ont donné des matchs de merde. Il y en a eu des tonnes aussi, parce que de la même façon, tu avais deux équipes qui se regardaient en disant on est outsider, aussi ils sont outsider, on n'est pas attendu, donc on attend, parce que ça va peut-être tourner de notre côté pour qu'on continue l'aventure en quart de finale. Il n'y a jamais réellement de promesses tenues ou de promesses pas tenues dans le foot. C'est voilà, t'as les matchs qui sont en même temps, pardonne-moi, France-Belgique, tu pouvais t'attendre, je sais pas à quoi tu t'attendais, mais si t'avais vu, tu connais les Bleus depuis 10 ans maintenant et les Belges de ces derniers temps, honnêtement, moi je ne m'attendais pas à un grand match. Au mieux, j'attendais 1-0, 1 partout, 0-0. C'était vraiment, si j'avais dû jouer, je joue rarement et j'ai pas pronostiqué ça, mais j'aurais certainement pas mis les 3 buts dans le match. Hein.
Je remercie Florent
en Ligue des Champions.
Je remercie Florent au 32-16. On va conclure sur ce match avec Ferhat, qui est supporter de la Turquie. Ferhat, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Ferhat.
Bon, est-ce que toi-même t'es surpris ?
Surpris, oui et non. Parce que vraiment, il y a de la qualité dans l'équipe. En fait, il y a vraiment des joueurs talentueux. Et là où je n'étais pas d'accord avec votre consultant sur le match de Arda, en première mi-temps, vraiment, il a fait déjouer l'équipe d'Autriche sur les sorties de balle. Où ouais. Tout le temps il y avait des prises à deux sur lui, sur une touche, deux touches, il avait toujours trouvé les bonnes passes, il n'a pas perdu beaucoup de ballons, et ça nous a vraiment aidé à ressortir, même si ça finissait pas sur des grosses occasions, où vraiment on arrivait à sortir de notre camp, entre guillemets, que sur les 20 dernières minutes, on n'arrivait plus à sortir des 30 mètres.
Bon, et comment tu vois le match face aux Pays-Bas? Parce que maintenant il faut parler de la suite, quoi.
Bah, la suite, les Pays-Bas, en fait, contre la France, c'était costaud. Après, contre l'Autriche, un peu moins. Du coup, donc, c'est du 50-50. Je vois ça comme du 50-50. Après, on a deux suspendus importants avec Yüksek et Kurkçu. Du coup, ça va un peu jouer peut-être sur la composition d'équipe. On ne sait pas quel joueur il va aligner, monter là. Mais je pense que c'est du 50-50 à ce stade de la compétition. Ça joue sur des détails, sur des coups de pied arrêtés. Ça peut aller dans les deux sens, en fait. Comme ce soir, ça aurait pu aller dans le sens de l'Autriche, comme ça allait dans le sens de la Turquie, parce que vraiment, l'Autriche, ils ont eu des grosses occasions aussi, ça s'est joué sur des détails, en fait.
On verra ce que ça donne. On va être méfiant quand même, hein, parce que les Pays-Bas, on va en parler avec.
Mais là, maintenant, avec le match d'après, de toute façon, les Turcs, ils ont démarré la deuxième phase en étant dans la peau à chaque fois de l'outsider, et ça va continuer. Évidemment que Pays-Bas-Turquie, tout le monde voit les Pays-Bas. C'est logique, c'est logique que ce soit comme ça. Il n'y a pas de honte à dire ça. Et les Turcs, en plus, je suis persuadé, sont assez satisfaits d'être dans cette situation-là. Ils disent maintenant, c'est que du bonus, on est à l'aise, ils vont jouer libéré, ils vont probablement utiliser la même tactique, les Pays-Bas vont attaquer. Et voilà, c'est eux qui auront la pression.
Non, mais c'est sûr, de toute façon, c'est avec ce jeu-là qu'on s'est qualifié en faisant un gros match en Croatie, en déplacement, on bat la Croatie, pareil, bloc bas, et on joue en contre. C'est notre jeu, c'est ce qu'on va faire encore, j'en suis sûr. Et ça changera pas, comme tu dis, Daniel. Et puis, ça va jouer sur des détails, en fait, à ce stade de la compétition. On a vu hier avec la France aussi, un tir contré, ça fait but. Et on sera preneur, pareil, si on marque sur coup de pied arrêté. Et S'il y a la qualif au bon, on sera preneur.
Voilà, ça, j'imagine bien. Merci, Ferhat. Tiens, mais les Pays-Bas, on va en parler dans quelques secondes. Polo, rien à rajouter? Oh!
Bah
avant, avant que tu reprennes la parole, Polo, c'est l'alerte. L'expérience RMC continue. On vous emmène donc en quart de finale de l'Euro pour assister au match France-Portugal vendredi soir. Si vous voulez participer au tirage au sort, l'expérience RMC, c'est simple. Hein, vous avez les places de stade, le billet de train, d'avion, même si c'est de l'avion, ça peut être du train ou de l'avion.
Bah,
panier repas.
T'as jamais d'infos sur la bouffe sur ce voyage. On sait jamais où bouffent les gens.
C'est où, c'est où d'ailleurs
quand même ça,
c'est...
Ce qui se passe.
C'est à Hambourg.
C'est vrai que c'est à Hambourg.
C'est plutôt avion. Hambourg,
je ne connais pas.
Une ville ancienne.
Si Polo est encore là, tu peux nous dire.
Une ville ancienne. Moi, je connais Hanovre.
Il paraît que c'est très branchouille comme ville. Je ne sais pas si c'est.
C'est devenu. Moi, j'adore Hambourg.
C'est bien Hambourg.
Il paraît que c'est devenu un peu branchouille, un peu hype, comme t'aimes pas trop.
Ouais, très social-démocrate, c'est vrai. C'est
bien ce que je pense, c'est un peu
insupportable.
Enfin, vous envoyez RMC par SMS au
4-32. Je vais faire croire que Hambourg, c'est le Cap Ferret maintenant.
Si vous voulez participer, RMC par SMS.
Hambourg, il paraît que la côte, là-haut, là, c'est un peu. Si.
Ouais, alors, pas avant le mois de mai.
C'est pas pull sur l'épaule, parce qu'il fait froid, donc je le mets, le pull, mais voilà.
J'ai passé un été à Hanovre, je t'annonce que tu dépasses rarement les 25 degrés.
Ah ben déjà 25,
c'est
Hanovre, bien,
ça n'a rien à voir à Hanovre.
Ah bon ? Ah bon,
bah,
il y a une grosse différence climatique entre les deux.
Ah bah oui, il y en a un, t'es du côté de la mer, pas à Hanovre.
D'accord.
C'est pas du tout la même chose.
Froid. Il fait encore plus froid à Hambourg alors.
Ah, en hiver, il fait froid, mais c'est pas un vrai climat continental comme tu as à Hanovre.
D'accord.
Et l'été, il peut y avoir des très belles journées là sur la côte.
Tu vois. Oui.
D'accord.
Je sais pas si un jour je me laisserai tenter, ça m'étonne, mais bon.
Voilà. Bolo, je disais donc, tu as un dernier truc à dire avant qu'on
bah, j'espère l'Autriche à la prochaine Coupe du Monde, ça ferait du bien. Pour le pays en tout cas.
Bah oui, bah là ils sont installés parmi les belles équipes européennes.
Mais donc c'est quand est-ce qu'on va savoir les groupes de qualifs pour la Coupe du Monde d'ailleurs là. Je comprends plus rien à ce truc là.
Parce qu'il
y a
après,
la Ligue des Nations et il n'y a pas eu le tirage de savoir de qui est dans la poule de qui. Non, personne ne sait, personne ne répond.
Non, moi j'ai la Nations League, non, je ne me rappelle pas des groupes.
Parce que Ligue des Nations.
Il n'y a que 13 places, c'est ça pour les Européens.
Ah bon? Comment c'est avec 13 places?
Coupe du Monde 2026, bah, je sais plus à combien.
Sur 32, il n'y a que 16 places?
Ah, c'est vrai, j'oubliais là, ce gigantisme.
Non, mais c'est même pas 32, c'est pas 48 la prochaine?
48.
C'est 48.
Ah oui, bon, là, 48, moi j'avais pour les 32, donc oui. J'oubliais ce passage de la société du spectacle au festivisme, qui est, voilà, de Guy Debord à Philippe Meuret. Voilà. Fabuleux. Salut Walid.
Il n'est pas là, Walid ?
Bah non, mais c'est pour lui, quoi.
Ah d'accord, allez. Très bien.
Ciao, ciao.
Il y a Johan qui est là, le Hollandais, c'est pire.
Bon. Concernant l'Europe, effectivement, on n'a pas encore les...
Il n'y a pas les tirages, on ne sait pas qui est... Avec qui est
vrai,
moi, je pensais que ça commençait dès septembre.
On a le format. Il y a 16 places pour l'Europe, on a le format.
C'est 16 places pour... Sur 48, tu as 16 places pour l'Europe ?
Oui, bah oui.
Ça fait beaucoup pour le reste quand même, non? Ils ont invité qui? Parce que qui donne quelques places de plus à l'Afrique, ça me paraît un petit peu normal maintenant quand même. Amérique du Sud, ils ont toujours leurs 5. 16 pour l'Europe sur 48.
Bon, c'est pas le sujet, on s'en fout.
Pas la moitié.
Perdons pas de temps. Merci Polo.
Mais tout peut devenir
Ciao.
Un sujet.
Oui, c'est vrai, potentiellement. Les Pays-Bas dans quelques instants. Bougez pas. Merci. On revient dans quelques secondes. Et puis, il y aura l'équipe de France à suivre. Et puis, l'actu du jour dominée par les droits télé, de nouvelle fois, droits télé de la Ligue 1, qui pourrait, pourquoi pas, être attribué, enfin, auto-attribué par la Ligue elle-même dans les jours qui viennent. On vous explique ça tout à l'heure.
Du 29 juin au 21 juillet, RMC se dédouble avec la radio digitale RMC 100% route. Toutes les étapes en direct, analyse, décryptage avec la Dream Team RMC et vous au 3216 touche 9. Alors pour la grande boucle en direct et en intégralité, téléchargez l'appli RMC. RMC 100% route avec Lidl. RMC, bien plus qu'une radio.
RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot, intégral euro.
Gilbert Bribois.
23h40, Daniel Riello, Florent Gautreau sont là et Johan Crochet nous rejoint. Le décompte de quoi?
Bon, on a le décompte. C'est très important d'avoir le décompte.
Ah bah vas-y.
Donc 16 pays d'Europe, 9 Afrique, donc là c'est gonflé. Le chiffre, c'est en augmentation et c'est normal.
Bah oui.
Ça me semble un peu plus bizarre pour l'Amérique du Nord, 6. Je sais pas où ils trouvent 6 pays, Amérique du Nord, pardon, mais bon. Quand on
déjà, ils en ont deux automatiques, déjà, Mexique-États-Unis,
que t'enlèves le Canada, là, qui semble arriver et tout, le reste, c'est quoi les pays?
Costa Rica, Panama, Panama, Guatemala.
Est-ce que ce ne serait pas le moment?
Panama, grosse qualifiée là pour la Copa América.
Est-ce que ce ne serait pas le moment,
avec
l'opportunité pour Saint-Vincent les Grenadines d'enfin faire quelque chose?
Je crois que même la Barbade, ils sont meilleurs.
Ah oui, effectivement. Peut-être que je changeais de fédé alors. Et ouais. 6, c'est quand même beaucoup.
6 Sam Sud aussi.
Et Asie, 8 ou 9?
8.
8
Asie.
Et 8 Asie, c'est qui 8 Asie?
Japon, Corée.
En fait,
Me donne pas les évidents, donne-moi les autres.
Ah, mais après, tu vas chercher l'Arabie Saoudite, le Qatar.
Ah, c'est vrai qu'ils sont dans cette zone-là.
Ouais, bah, l'Iran, Qatar, toujours
obligé d'aller les chercher. Et Qatar, t'es pas obligé d'aller les chercher. Hein. Pour ce que ça
non,
fait.
Non, le truc, c'est l'Océanie, parce que l'Océanie, il n'y a plus que la Nouvelle-Zélande. Donc eux, ils sont sûrs d'être qualifiés, en fait.
Pourquoi il n'y a plus l'Australie?
L'Australie, c'est dans la zone Asie.
Ouais,
ah,
ouais. Il y a un barrage aussi, apparemment. En plus. Parce que là, on n'arrive pas à 48, sinon. Avant de parler des Pays-Bas. J'aimerais vous annoncer quand même que vendredi, quart de finale des Bleus, nous serons dans la ville, dans le club d'N'Golo Kanté, à Suresnes.
Tout à fait.
Le déplacement sera court.
En région parisienne. Donc si vous voulez assister au match, enfin aux deux matchs d'ailleurs, parce qu'il y aura un écran géant à Suresnes avec les deux matchs et deux beaux matchs en l'occurrence.
On a consulté la météo, ce rapport à ce qui s'est passé avant-hier.
Hier, on a eu froid à Arctique, c'est vrai. On a été reçu royalement.
Même Arctique, ils avaient prévu. Même les doudounes, ils ont donné. C'est dire à quel point on a été reçu.
Franchement,
doudounes au mois de juillet, je pensais pas que j'en porterais une un jour dans ma vie.
On les remercie. Vendredi, 24 degrés prévu, un peu couvert. Ça te va, Daniel?
Ça me va. En revanche, je pense qu'ils pourront pas faire mieux au niveau de la bouffe. Ils pourront pas s'aligner sur Arctique.
Ni qualitativement, ni quantitativement.
Oui, ni quantitativement.
Car on pouvait être quatre sur la même entrecôte. Sauf coach.
Des entrecôtes d'une
coach
taille,
coach a bien géré son entrecôte en 4-4-2. mais nous, on a eu beaucoup de mal.
Ouais. Un gros gegenpressing aussi sur les choux à la crème.
Les choux à la crème, il a fait un pressing
de dingue. La pote est passée devant lui, il fallait pas t'arriver après, c'était fou.
En fait, les chouquettes étaient en surnombre, et puis après le pressing de Roland, il avait nettoyé tout le monde. Et il a gagné le match 7-0.
Donc lundi, vendredi.
Ce qui fait d'ailleurs, au passage, je n'ai pas pu goûter, Gilbert, les fameux choux, mais non.
C'est excellent.
La boîte était vide.
Parce que bon, en fait,
spécialité du Cap Ferret.
Les Vélocs, vous y allez pour bouffer, vous.
Bah, Gilbert, Daniel me dit passe ta boîte, donc je la passe au bout
c'est
de la table.
C'est un auditeur fidèle de l'After qui nous les a offert, ouais. Et franchement, c'est excellent.
Franchement, c'était bon.
À Suresnes, vendredi, 18h, diffusion d'Espagne-Allemagne. De 20h à 23h, le match Portugal-France, et ensuite l'After jusqu'à minuit et demi. Si vous voulez venir, vous vous inscrivez sur le mail public@rmc.fr. public@rmc.fr, voilà, le message est passé, n'hésitez pas. C'est vendredi soir, bien sûr. Bon, les Pays-Bas. Johan, capable d'être moyen, comme au premier tour, et capable, d'un coup, de faire un match comme aujourd'hui, là, où ils ont éclaté la Roumanie.
Ouais, c'était mieux. Alors, autant sur la phase de groupe, j'étais très critique sur le jeu et il y a beaucoup de choses qui ne m'avaient pas plu. D'ailleurs, dans tous les secteurs, hein, défensivement contre l'Autriche, c'était catastrophique. C'était mieux contre la France, mais l'équipe de France n'avait pas fait grand-chose non plus pour vraiment mettre en difficulté les Pays-Bas. Sur le plan offensif, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. On s'interroge encore sur ce rôle de Memphis Depay en tant que faux numéro 9. Aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les réponses à ce sujet-là, même s'il y avait un peu de mieux, qu'il est capable, évidemment, techniquement, de faire la différence, parce que ça reste un joueur d'une grande importance, ou en tout cas d'une grande qualité technique. Mais c'est sûr que sur la vivacité, sur le fait de se retourner rapidement, sur la prise de profondeur, sur la vitesse, il ne sera pas en capacité d'aider totalement cette équipe-là. Par contre, on a retrouvé le joueur qui avait un peu, je vais pas dire sauvé la Coupe du Monde, mais qui avait permis aux Pays-Bas d'aller loin en Coupe du Monde, au Qatar, en quart de finale contre l'Argentine, c'est Cody Gakpo. Le joueur majeur du secteur offensif néerlandais, qui est dans la lignée des joueurs de côté explosifs, dribbleurs de 1 contre 1, remportant beaucoup de duels, qui en plus a cette... on a beaucoup de déliés qui sont pas très grands mais assez larges, très très puissants. Lui, il est un peu dans un autre format, il est très grand, il est pas si épais que ça, et malgré tout il réussit à faire beaucoup de différence. Il a une force de frappe aussi qui est assez impressionnante, parce que le but qu'il met et le fait qu'il déclenche rapidement au premier poteau, de la frappe, elle a été calculée quand même à 121 km/h. Donc on va encore une fois beaucoup s'appuyer sur Cody Gakpo, je pense, en quart de finale.
Mais ouais,
Et c'est un peu un aveu d'échec du plan collectif parce que Depay t'apporte pas ce qu'il devrait apporter. Mmh. Bergwijn a été transparent. Je pense qu'il mettra Malen en quart de finale parce qu'à chaque fois qu'il rentre,
Malen, il fait une différence. On a vu son entrée. C'est un petit peu comme si, en fait, aujourd'hui, j'ai eu l'impression de voir une équipe hollandaise avec deux nouveaux visages. Alors, tu vas me dire que Gakpo, c'est pas nouveau, machin, mais ouais. Gakpo en leader.
Oui.
Qui pourrait s'assumer.
Oui.
Alors qu'il n'était pas réellement censé l'être, même si entre nous on peut se dire c'est quand même lui le meilleur. Entre être le meilleur et se dire le meilleur, parce que normalement c'est peut-être Memphis, c'est peut-être d'autres joueurs, tu vois, qui doivent être un peu plus tauliers, qu'un peu plus. Et en fait se dire mais non, en fait on est tous d'accord maintenant. C'est lui le leader d'attaque, c'est lui qui peut accélérer, c'est lui qui peut marquer, c'est lui machin, c'est ceci voilà. Et l'autre c'est un gars qui est pas titulaire, mais qui a fait un bien fou chaque fois qu'on le voit. Dans cette équipe, c'est donc Malen. Est-ce que il n'y a pas des données qui ont peut-être changé dans ce match-là? Je ne crois pas que Memphis va apprendre la modestie en 48 heures. Il continuera de considérer que c'est un peu lui le leader d'attaque, mais je le trouve très effacé.
Et puis même, je pense pas que Koeman tout simplement change, parce que jusque-là, les quatre matchs qu'il a fait, que ce soit en phase de groupe ou là, ça a toujours été Memphis titulaire en faux neuf et il n'y a même pas de débat pour lui. C'est-à-dire que le seul joueur qui aurait pu vraiment le concurrencer à un point important en termes de jeu et de son apport collectif, c'est Zirkzee. Sauf qu'il n'était même pas dans la première liste. Il a été là parce que Broby s'était blessé à l'entraînement et donc il y avait une incertitude et il l'a rappelé. Parce que Verhorst, moi je l'aime bien quand il entre, parce que quand on doit allonger le jeu, il fait des différences. Il a marqué un but, il a fait une passe décisive de la tête dans les duels aériens. Là-dessus, il est utile. Moi, je suis pas persuadé qu'on aurait la même influence de Verhorst sur l'entièreté d'un match. Et surtout quand on va avoir un jeu un petit peu plus élaboré, plutôt que la fin de match, un peu la desperado, où on balance un peu tout devant, où on met beaucoup de ballons dans la surface et où Verhorst a cette capacité-là à marquer. Donc Depay, je pense que ça changera pas Daniel. Malen, je pense qu'il peut y avoir une évolution parce que ça a été vraiment la grosse surprise d'avoir Bergwijn titulaire, qui n'avait pas joué jusque-là dans cet Euro, qui a fait vraiment une saison catastrophique à l'Ajax, dont il était le capitaine et qui a pas du tout rempli son rôle à la fois de capitaine et de joueur majeur sur le terrain de l'Ajax. Finalement, aux Pays-Bas, moi, je me demande même si Gakpo ne va pas être en capacité de devenir le vrai leader, pas simplement d'attaque ou sur le plan offensif, mais global de cette équipe-là. Parce qu'aux Pays-Bas, il y a pas mal de discussions sur le rôle de capitaine de Van Dijk. Et notamment, il a un mec qui est assez...
Tu n'as pas trouvé plus... justement, plus patron aujourd'hui?
Bon, moi, En fait, pour expliquer brièvement, il y a un mec qui est sur son dos en permanence aux Pays-Bas. Et quand tu l'as sur ton dos, c'est pas facile. C'est Van Basten. Van Basten remet en cause à chaque match le rôle de leader et le rôle de capitaine de Van Dijk.
Tout le monde sait qu'il est ultra casse-burne.
Ouais, mais aux Pays-Bas, il a une voix qui porte et qui a encore une influence.
Pourquoi? Bah, excuse-moi, comment tu l'aurais dit? Déjà, j'ai failli dire casse-couille, je ne l'ai pas dit. Donc, casse-bonbon, comment tu ne le dis pas? Casse-bonbon, donc tu vas dire quelqu'un utilise cette expression sur Terre, en France, aujourd'hui, en 2024. Il y a des gens qui disent casse-bonbon.
Il y a des enfants qui t'écoutent, et les parents qui écoutent avec leurs enfants.
Allumez-moi mon micro. Il y a les enfants qui t'écoutent. Et donc, disais,
c'est vrai.
Ils ne veulent pas entendre de gros mots. Tu voudrais pas que tes propres enfants entendent des gros mots à la radio?
Ah, il est un peu grand maintenant.
D'ailleurs, je signale que nous arrivons à la fin de la saison. On va falloir passer chez Verratti. C'est prévu la semaine prochaine.
on arrive.
De le voir d'ailleurs. Il y a la cagnotte qui va tomber.
Le problème, c'est pas que je veux pas y aller, c'est que j'ai peur que s'il nous voit et après il en cuisine, il fasse pas bien à bouffer.
Il crache dans cracher dans tes pattes.
Pour se manger, tu vois.
Ouais,
c'est ça qui me fait un peu peur. Sinon, il y a pas de problème, on peut y aller, hein, avec plaisir. Moi, à la fois où j'y suis allé, la pizza est de qualité.
Je précise que t'en as à 80€.
En plus, le patron,
le
patron est très sympa. Il nous aime bien. Il aime bien
inviter l'inventeur du I Love Marco Verratti du sticker.
Ah oui, il a eu des gros malheurs.
Non, lui, on l'invite pas. Lui,
il bosse dans un golf, tu sais, sur la côte bretonne, qui a brûlé. Enfin, le clubhouse. Donc,
tu connais le gars qui a mis les autocollants I Love Verratti?
J'ai mis la photo sur Twitter. J'ai rencontré donc le créateur de ces stickers qui voulait créer un nouveau I Love Luis Enrique, je crois, pour faire plaisir à Daniel, et que j'ai croisé récemment. Mais malheureusement, ça a failli mal se terminer. Heureusement, il n'y a pas eu de. Mais voilà, tout le clubhouse est parti en fumée. Bon, bref. Attends, je veux juste.
Florent Gotto doit 13 euros. Yann Crochet, 1 euro.
Quelle
bonne saison, Johan Brown.
Une bonne saison. Pas de carton. tu vois. C'est un peu ça, en fait. Les euros, c'est un peu les cartons.
C'est un peu le rocheteau de.
Bon,
de
si on revenait à Van Basten, parce que c'était un peu.
Alors, Van Basten, il est tout le temps sur le dos de Van Dijk, et effectivement, c'est pas facile à vivre
mais
pour Van Dijk.
Quoi en cause ça, son leadership,
le fait qu'il n'entraîne pas les autres, qu'il a toujours des discours qui sont assez mous, qu'à la fin du match, il n'a pas l'air d'être un taulier, qu'il lit mal. On parlait de Spalletti beaucoup pendant cet euro sur l'analyse qu'il avait des rencontres, et lui il est tout le temps sur son dos, donc c'est pas forcément
bon,
évident.
Ça n'était pas tellement comme ça non plus lui hein.
Ah non, lui, il ne l'était pas.
Un peu soliste.
Oui, mais lui n'était pas forcément capitaine des Pays-Bas. Et on verra d'ailleurs, parce que Van Dijk, moi, je le trouve vraiment en difficulté physique sur cet euro. Il est toujours 4 mètres derrière les autres parce que je pense qu'il se sait en difficulté physique. Et donc, c'est toujours plus facile de faire 2 mètres en arrière pour gérer la profondeur que 2 mètres en avant. Je pense que Cody Gakpo va être amené après sa Coupe du Monde. Où il a vraiment pris confiance en lui, confiance en ses qualités. Je pense qu'il les avait parce que c'est toujours comme ça. Ensuite, avec l'âge avançant de Van Dijk plus cet euro-là, je me demande si Cody Gakpo ne serait pas en capacité de devenir tout simplement le vrai leader avec un Frenkie de Jong qui sera de retour de blessure.
Il est encore un peu tôt, mais déjà qu'on prenne conscience que c'est lui qui va faire la diff, que lui-même se sente un peu libéré, que ce soit pas le gars derrière Memphis, mais le vrai leader d'attaque. Oui, je pense qu'aujourd'hui on en est
juste pour Nathan qui explique sur le chat que Cody Gakpo n'est effectivement pas un nom d'origine hollandaise. Par contre, personne aux Pays-Bas ne prononce le G de Gakpo. Je l'invite à écouter la télé publique néerlandaise qui fait les matchs et tous les matchs du PSV qui sont commentés et d'aller sur la chaîne officielle du PSV. On dit effectivement Cody Gakpo, même si son nom n'est pas d'origine.
Bon, chacun dit comme il veut. On sait moi les prononciations.
Moi, je vais dire Gakpo parce que
c'est important. Quand on le sait, c'est
quand
bien
on le dit, on peut le dire.
Quand on peut le dire.
Quand quelqu'un prononce à la façon locale un nom, ça me dérange pas. Et quand on prononce à la française un nom, ça me dérange pas non plus.
Ouais. Oui, mais si quelqu'un vient et dit Brisebois, tu vas lui dire ça se dit Brisebois. Après, on dira Brisebois.
Je m'en fous royalement.
Ah, Daniel, tu sais très bien qu'en Italie, c'est Didier Deschamps, Laurent Blanc.
Ouais, c'est vrai.
Voilà,
ils disent comme ils veulent.
Ça me fait rire quand ils disent ça.
Sûr. Juste pour revenir au match, par rapport à la victoire 3-0, on dit il s'est passé un truc.
Permettez-moi, les commentateurs, par contre, qui veulent faire le match de la Pologne avec que les prononciations locales, là, par contre, on est
d'accord que moi, le gardien Chechny, j'ai prononcé par le commentateur là, sur la télé française, là, je croyais qu'ils avaient changé de gardien. Pendant une mi-temps,
c'est qui
le gardien de la Juve, un bon match.
Donc, le gars, il voulait ramener sa science, tous les noms en version locale, si on n'y comprenait que dalle.
Dans ces cas-là, si tu peux dire le gardien de la Juve.
Ah, pardon. Ah, mais moi, je peux pas parce que je vais pas le mettre le bon accent et tout, donc j'ai de la Juve. Non, mais, juste pour revenir au match, j'ai l'impression qu'on dit parce qu'il y a eu 3-0, qu'ils ont mangé la Roumanie. Ah, tiens, il y a progression. Moi, j'ai l'impression que tout change et rien ne change. C'est-à-dire que tu nous as dit d'ailleurs dans l'Euro, à un moment donné, Gakpo, parce que moi, je sais pas le dire, avait fait un match moyen, ou moins bon, peut-être contre la France d'ailleurs. Et j'ai l'impression que c'est à la fois la force et la faiblesse de cette équipe. Collectivement, moi j'ai pas vu grand chose de différent. On a le débat de paille, on a le débat Xavi Simons, j'ai pas trouvé ça génial.
Non.
Et Gakpo, effectivement, quand il est fort, il y a une diff. Là tu le dis, Malen peut rentrer, là clairement t'aurais une plus-value, mais t'as des défauts derrière. Donc est-ce que vraiment cette victoire, parce que c'est une victoire 3-0, change grand chose?
Non, ce qui va changer, c'est que ça va donner confiance, que les mecs auront pas la presse contre eux comme ils l'ont eu depuis 5 jours après le
piteux
match.
Et la presse néerlandaise, elle est violente. Hein.
Ah, mais ça
pour ceux qui se plaignent de la France.
Ça n'a rien à voir avec les autres pays. Mais vraiment, moi, j'ai rarement vu. Vous avez cité une phrase, puisque ils avaient joué le jour de la victoire des Pays-Bas à l'Euro 88. Et un journaliste avait quand même écrit qu'ils avaient... c'était comment l'expression? J'ai plus le terme exact, mais en gros, ils avaient souillé la date des Pays-Bas dans le foot, qui était la victoire à l'Euro 88.
Arrêtons-nous là-dessus de 30 secondes. Est-ce que tu te rends compte quand tu entends Deschamps?
Ils avaient profané la date.
Est-ce que tu te rends compte quand tu entends Deschamps se plaindre quand on critique le jeu de l'équipe de France? De ce qui se dit dans des pays de tradition, comme les Pays-Bas, où en plus, là-bas, on rigole pas avec cette histoire de jeu.
Ah non, non,
mais,
non.
Tu ne peux pas. Aux Pays-Bas, ils ne supporteraient même pas qu'on gagne comme ça. Mais ils ont. Et puis peu importe, c'est leur culture. Mais ils ont un regard sur le foot où ils ont le droit de dire ces choses-là. Nous, à chaque fois, on a l'impression qu'on je sais pas quoi. C'est qu'on commet un crime abominable quand on ose dire que le jeu de l'équipe de France de Deschamps c'est horrible et qu'on a envie de voir un autre sélectionneur. Mais oui, mais ça empêche pas, va gagner, les Français seront dans la rue, ça va faire la fête, ils seront contents, il y a aucun problème avec ça. Mais nous, on peut dire qu'on s'emmerde et que ça joue pas bien et qu'avec ces joueurs là, il y aurait matière à faire autre chose, à jouer autrement.
Surtout quand
et ça, en France, culturellement, on ne veut pas évoluer là-dessus. On ne veut pas évoluer là-dessus.
Allez, Griezmann dit qu'on séchait. Donc
suite du débat dans quelques instants avec avec Johan. Ouais,
il a dit,
justement,
avis, il a pris un coup de semonce et derrière, il a
derrière, il joue plus. Et maintenant, il a punition, il joue sur le côté droit dans un 4-3-3
enfilé.
Ah, tout de suite dans l'after.
Just like backyard barbecues or a day at the pool, the Three Rivers Festival has always been a part of our summer fun. And the festival returns July 12th to the 20th. It kicks off with the annual Three Rivers Festival Parade. Browse art in the park with local artisans. Bring the family to Children's Fest. Stroll through Junk Food Alley. And don't forget about the festival concerts at the Hoosier Lottery stage with live music from nationally renowned acts. You can buy your concert tickets or check out a schedule of events at threeriversfestival.org. Don't miss the best summer experience in Fort Wayne, the Three Rivers Festival.